Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Lorsqu'on ouvre un nouvel ouvrage de cet auteur, on se demande dans quelle aventure excentrique il va nous entraîner. Quelles images sublimes vont s'imprimer sur nos rétines. Quelles réflexions drôles, pinces sans rire, vont une fois encore nous faire rire ou sourire. On sait que l'on va entrer dans un univers déconcertant et on s'en réjouit. L'écriture reste toujours juste, rythmée. Il y a un ton, des réflexions originales. Ici, ce n'est pas exactement un roman, plutôt un récit ou un journal de bord. Mais on retrouve les ingrédients qui font le charme et l'intérêt de ses écrits. Un homme apparemment impavide, étranger, mais avec une capacité d'adaptation remarquable. Un homme confronté à une réalité qui peut le dépasser. Il s'agit de Jean-Philippe Toussaint, auteur de ce nouvel ouvrage intitulé « Made in China » et édité par les éditions de Minuit. Jean-Philippe Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'alliez-vous faire, non pas dans cette galère, mais à... Alors, Gangsu, c'est canton,
oui,
mais
alors,
vous êtes fidèle. Là,
avec mon accent chinois, maintenant, je crois qu'on dit Guangzhou.
Guangzhou, d'accord. Oui, le X, c'est jeu aussi, ah. Et là, Guangzhou. Je ne vous promets pas, peut-être que je reviendrai à canton.
Oui, bah, c'est une bonne idée.
Voilà. En fait, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas?
Ben, au départ, c'est très imprévu. Alors, le départ remonte à longtemps, parce que la rencontre décisive date du tout début des années 2000. Et je pourrais presque le raconter comme ça. Un jour, un Chinois sonne à ma porte à Bruxelles. Je suis chez moi à Bruxelles, et un homme chinois que je ne connais pas. Alors, je savais que j'avais rendez-vous, j'exagère un tout petit peu. Et c'était mon éditeur chinois. À l'époque, il n'avait publié un seul livre de moi qui regroupait mes trois premiers romans en un seul volume.
Le fameux Sheng Tong dont nous allons parler, parce que c'est un personnage.
Vous avez deviné. Donc, il arrive chez moi et je ne le connaissais pas du tout. Il commence à m'expliquer ce qu'il fait, qu'il est l'éditeur d'Alain Robbe-Grillet, qu'il est l'éditeur de Beckett et qu'il a publié un de mes livres en chinois. Mais au départ, c'est vraiment quelqu'un d'assez étranger. Et petit à petit, donc, bien sûr, il s'intéressait beaucoup à tout ce qu'il voyait dans mon appartement. Il photographiait tout. Ma fille, encore petite à l'époque, qui jouait, il fait des photos. Il fait des photos de moi. Est-ce que je peux le photographier? Il s'intéressait à tout. Et à partir de là est née une amitié. Un an plus tard, il m'a invité pour la première fois en Chine. Je ne connaissais pas la Chine à l'époque. Et donc, j'ai fait mon premier grand voyage en Chine en 2001 à l'invitation de Chen Tong, puisque donc il s'agit de Chen Tong, qui en effet est le personnage central de Made in China. Le livre est quasiment un portrait de Chen Tong, en tout cas en filigrane.
Aussi, oui.
Il apparaît comme un portrait de...
Vous avez oublié de dire que vous ne parliez pas le chinois, mais qu'il ne parlait pas le français.
Voilà, il a toujours un interprète à ses côtés. Alors, c'est un homme pratique. Et donc, il m'invite en Chine, j'ai toujours un interprète avec moi, il organise tout parfaitement bien. Et quand même, on peut ajouter ce petit détail, c'est qu'il a quand même appris le français, un petit peu, mais très tardivement. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé à prendre des cours de français en Chine, alors qu'il avait déjà 30 ans passés. De même que moi, avant de faire mon premier grand voyage en Chine, j'ai pris des cours de chinois à Bruxelles. Donc, il se trouve que quand même, l'un et l'autre...
Vous arrivez à communiquer.
Alors, puis, ouais. On baragouinait. Hein, c'était ouais. Vraiment très, très, très minimaliste. Mais c'était aussi... ça fait partie de ce côté saugrenu de nos rencontres et de nos discussions... moi, baragouinant quelques mots de chinois et lui de français, était assez pittoresque et saugrenu aussi. Ça fait partie aussi de ce pittoresque.
Alors, effectivement, moi, j'ai le souvenir quand tout à l'heure, dans l'introduction, je parlais d'images sublimes. J'ai ce souvenir de ce cheval galopant sous la pluie, il me semble, sur le tarmac. C'était extraordinaire. C'était dans Fuir ?
C'est dans La vérité sur Marie.
La vérité sur Marie, oui. Et ça se passait déjà en Chine.
Alors, la scène se passait au Japon sur l'aéroport de Narita. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas suffisamment de contacts au Japon parce que j'ai été tourner également cette scène vraiment très curieuse de ce cheval sur l'aéroport. Déjà, un cheval et un avion, c'est très difficile à mettre ensemble dans une seule image. J'ai réussi à tourner la scène en Chine grâce à Chen Tong, mais c'est toujours en Chine que j'ai été tourné, même si dans le livre, parfois, les scènes que j'évoque se passent au Japon.
Alors, tandis que là, c'est à partir d'un autre roman.
Oui.
Hein, il s'agit de Fuir.
Alors, la scène que, disons, que le tournage que j'évoque dans Made in China, en réalité, il s'agit d'adapter cette scène d'un défilé avec une mannequin qui est recouverte d'une robe en miel, qui est en fait le prologue du roman nu. Et là, Marie, créatrice de mode, qu'on retrouve dans les quatre romans du cycle de Marie, a imaginé une mannequin entièrement couverte de miel qui défile sur un podium de mode suivi par un essaim d'abeilles. Alors c'est une image en effet que littéraire que j'ai construite dans ce roman nu, apparemment totalement impossible à adapter au cinéma.
Oui, vous ne vous facilitez pas la vie. Hein.
C'est ça. En fait, je dirais presque que c'est presque une condition sine qua non. Si ce n'est pas apparemment impossible, ça ne m'intéresse pas de l'adapter
c'est
ou d'essayer de le faire.
Un des Chinois qui vous entoure, qui vous dit que quand c'est trop facile, ça ne vous intéresse
voilà,
pas.
Voilà, il y a cette anecdote. C'est Chen Tong lui-même d'ailleurs qui avait remarqué que je sortais mon appareil photo. Alors, c'était lors de mon premier voyage, donc j'étais un peu un hôte de marque, donc il me faisait visiter des lieux toujours absolument superbes, et donc il s'attendait à ce que je sorte mon appareil photo.
Comme lui.
Voilà, et je ne photographiais jamais, chaque fois qu'on me montrait des endroits magnifiques, je ne photographiais jamais, mais par contre, il avait remarqué, il me disait, mais en fait, tu ne photographies que quand c'est impossible, soit parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc en effet, j'aime faire des portraits la nuit, donc sans lumière, ce qui était évidemment assez compliqué. Et l'autre moment où j'aimais bien sortir mon appareil photo, c'est quand c'était interdit. Par exemple, s'il y avait une base militaire, et il y a beaucoup de policiers évidemment en Chine, oui. Et de militaires. Et donc dès qu'on voyait une sorte de base avec des policiers en faction, je sortais mon appareil photo. Et évidemment, tout de suite, quelqu'un me disait non, pas de photo, pas de photo.
Oui, vous ne lui facilitiez pas la vie non plus.
Non.
Alors là, donc, vous venez pour un court-métrage et il s'agit de ce fameux Honey Dress.
La
robe en miel. Voilà. Alors, pourquoi avez-vous écrit un journal pendant ce tournage? Avez-vous commencé à écrire? Et alors là, déjà d'emblée, moi j'aimerais, et il y a une explication qui n'est pas tout à fait au début, c'est même à la page 121.
Oui.
Je crois pas que... Je vais vous communiquer passer votre ouvrage, votre livre. Page 121, d'une certaine façon, en choisissant de façon arbitraire, voilà, je vous...
Oui, en effet, c'est un passage tout à fait important qui résume... vous avez raison, donc je le lis.
Oui.
D'une certaine façon, en choisissant de façon arbitraire et parfaitement fortuite cette semaine de novembre 2014 pour tenir un journal, le plus détaillé possible, le plus circonstancié possible, en épargnant aucun incident, en m'attardant en détail sur chaque événement microscopique qui m'était arrivé pendant ces quelques jours, en dilatant en quelque sorte le temps, pour créer, à partir de rien, une durée romanesque autonome, et en reliant constamment cette évocation de la préparation de The Honey Dress aux autres tournages des films que j'avais réalisé en Chine, j'agissais de la manière dont on procède quand on prélève une carotte de glace de façon aléatoire dans la banquise pour obtenir des informations sur sa composition, son environnement et son devenir possible, afin de parvenir, à partir d'un seul prélèvement ponctuel, aussi infime soit-il au regard de l'immensité qui l'entoure, à retrouver toutes les couches successives et superposées de son passé, et de reconstruire avec des mots, de réédifier en images, dans le présent de la lecture, son histoire. Et vous avez tout à fait raison de souligner ce passage, parce qu'en effet, il décrit bien le projet, c'est-à-dire que en me disant, tiens, je vais tenir un journal de ces quelques jours, je ne prétends pas que ces jours étaient particulièrement édifiants, même s'ils étaient assez intéressants pour moi, et même assez exaltants à vivre, mais je dis, peu importe, je choisis une semaine au hasard, et si je relis cette semaine aux autres expériences que j'ai faites de la Chine et que chaque fois j'y fais allusion, en réalité, au-delà de cette simple semaine que je décris, je vais porter un regard plus large sur la Chine d'aujourd'hui et aussi sur l'activité qui est la mienne de cinéaste avec des Chinois d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est vraiment au centre, vous avez raison, au centre du livre, d'essayer malgré tout de jeter un regard sur la Chine contemporaine, sur les Chinois d'aujourd'hui. Alors,
avec un travail de réminiscence en même temps.
Absolument, avec des liens constants. C'est-à-dire que les événements du présent que je relate et que je suis en train de vivre, parce que je le décris comme un romancier, on a un temps romanesque, le temps, je le relis tout le temps au passé et à mes autres séjours en Chine. C'est-à-dire que là, je raconte le tournage de The Honey Dress, mais je fais allusion à cet autre tournage, le tournage notamment avec le cheval et l'avion, que deux ans plus tôt j'avais réalisé, ou un tournage que j'avais réalisé 5 ans plus tôt, qui était une scène de fuite en moto, qui était une scène du livre Fuir, de 3 personnes qui fuient à moto. Tous ces tournages, je les avais réalisés en Chine, avec plus ou moins les mêmes personnes, en tout cas toujours avec Chen Tong, mais avec d'autres membres de son équipe. Et en effet, je relis tout le temps les événements du présent que je suis en train de vivre à ces événements passés. Mais ça, c'est une corrélation sur laquelle j'insiste. Une autre, c'est qu'il y a des choses que je suis en train de vivre dans la réalité qui me rappellent des éléments de fiction. Parce que j'ai écrit ce livre Fuir, j'ai écrit ce livre 10 ans plus tôt, qui est un livre, un roman qui se passe en Chine. Et il y a des scènes de la réalité, je vois Chen Tong, qui en fait agit comme un personnage d'un de mes romans. Et donc il y a tout le temps des interactions.
Entre la réalité et la fiction.
Voilà.
Voilà. Donc il y a une histoire de temps et une histoire de réalité. Parce que finalement, vous évoquez aussi donc, les souvenirs, premier voyage en 2001, vous notez les changements de la ville, l'évolution de ceux que vous aviez connus, et parfois même vous êtes surpris, parce qu'ils n'évoluent pas.
Voilà, alors certains, notamment une de mes interprètes hein, je me dis, mais c'est incroyable, elle n'a pas changé du tout. Alors pourtant, il y a quand même 15 ans qui se sont écoulés, mais elle n'a pas changé, voilà. Nous sommes à la fois, c'est comme ça dans la vie, il y a des gens, on a l'impression ils ont totalement changé, et d'autres qui...
Immuables.
Absolument, parfois, ouais, on a ce sentiment. Et puis alors, l'autre chose que je remarque et qui est très curieuse à noter, c'est que il y a certaines personnes qui disparaissent complètement, comme par enchantement, et puis elles réapparaissent. Et d'un coup, alors je n'avais plus aucune nouvelle d'eux depuis très longtemps, certains avec qui j'avais des liens vraiment très étroits, je n'ai plus aucune nouvelle, parce que c'est sûr qu'en Chine, il y a quand même une difficulté de communication, donc on demande...
On va parler de ça, oui.
Voilà, on ne demande pas des nouvelles tiens, comment va-t-il celui-là, on n'en parle pas, et donc il y a des gens qui apparaissent et disparaissent.
Et oui, alors justement, moi, à certains moments, je me suis dit, mais... Comment fait-il ? On parlera de votre comportement, parce que je suis admirative. Parce que forcément, dans un pays comme la Chine, on a besoin de repères.
Oui.
Et vous n'en aviez guère, finalement.
Voilà. Et puis, il y a aussi une sorte de... Je pense que c'est un trait de ma personnalité, c'est que je ne pose pas de questions. Et donc,
oui.
En fait, je pense que c'est un trait lié à mon œil d'écrivain. C'est-à-dire que justement, en ne posant pas de questions, je suis obligé...
Vous restez libre aussi.
Oui, et d'observer. Et de faire un travail d'écrivain, c'est-à-dire qu'en fait, je suis tout le temps confronté à une réalité mystérieuse et que je dois élucider. Alors que si je posais des questions, on me donnerait la réponse et je n'aurais pas tous ces efforts à faire.
Et
donc,
puis peut-être que la réponse est peut-être un peu biaisée. Ça passe par le prisme de quelqu'un d'autre.
Aussi. Alors, il y a aussi tous les filtres liés aux interprètes.
Oui.
Aux interprètes. Et parfois, comme certains quiproquos, où une fois j'avais une interprète qui n'était pas mon interprète habituel, une interprète anglais-chinois plutôt que français-chinois, qui s'était un petit peu trompée. Donc, ça mène aussi à certains quiproquos parfois.
Oui, alors, quand je parle de repères, les hôtels, c'est pas forcément l'hôtel auquel vous vous attendez. Donc, c'est un nouvel hôtel. Les interprètes, il y a un ballet d'interprètes, je dirais.
Absolument, oui, ça, il faut s'y retrouver. Et je fais la remarque aussi sur les traducteurs, parce que donc, tous mes livres sont traduits en chinois.
Mmh. Grâce à
Chen Tong, bien sûr.
Oui.
Et Chen Tong qui fait d'ailleurs le lien, parce que Chen Tong est vraiment...
Chen Tong, pardon, je vous interromps,
oui.
Parce que c'est un fan, je dirais, de Robe Grillée.
Oui.
Et vous êtes dans la même veine, dans la même écriture, évidemment.
Voilà. Il a publié, il est devenu éditeur pour publier Robe Grillée en chinois. Et donc, Robe Grillée étant publié aux éditions de Minuit, très vite, il a publié d'autres grands auteurs des éditions de Minuit, notamment Samuel Beckett. Il a publié les œuvres complètes de Samuel Beckett. Et puis, de fil en aiguille, il a commencé à s'intéresser à des plus jeunes auteurs des éditions de Minuit. C'est comme ça qu'il est venu à mes livres. Et donc, tous mes livres ont été traduits en chinois, mais il a fait appel à des traducteurs très différent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un des traducteurs qui a traduit justement Fuir, ce roman qui se passe en Chine. C'est un des professeurs les plus éminents de Pékin. C'est vraiment une sommité.
Ouais.
Et d'autres, c'est des tout jeunes interprètes, tout nouveaux, à qui il confie la traduction de tel ou tel hôte de mes livres. Et l'unité, finalement, en chinois, qui fait, parce que on pourrait se dire, mais j'aurais pas le même ton en chinois s'il y a plusieurs interprètes, mais c'est finalement Chen Dong qui lui-même relie tous les textes et
oui.
Donne une unité.
Oui, alors ça m'a fait sourire, parce que je me suis dit, il est vraiment très fort, c'est un personnage.
Oui.
C'est vraiment un personnage, parce que dans le fond, il ne parle pas français, mais il a une idée, je pense qu'il a compris de l'intérieur quasiment, votre démarche littéraire.
Ben, en tout cas, il faut lui faire confiance. Je ne sais pas exactement, moi je ne suis pas capable de lire en chinois ce que j'ai écrit, si je puis dire, mais je sais qu'il cherche une cohérence. Je vois qu'il relit très attentivement, et donc c'est bien le texte chinois qu'il relit. Mmh. Et donc il travaille avec les interprètes, et donc il dit, là il y a quelque chose qui va pas, et donc l'interprète lui dit, oui, bah, il peut lui dire, ah, bah, c'est comme ça en français, ou des choses comme ça.
Vous n'avez jamais dit que dans le fond, il réécrivait du Shentong?
Ben, sans doute, je pense. Mais ça, c'est comme tout traducteur, je dirais même tout bon traducteur, apporte quelque chose de lui-même.
C'est un peu comme quand on passe au cinéma, un livre à peindre.
Absolument, ou comme quand on interprète.
Il y a une recréation.
Un morceau de musique. Enfin, je veux dire, les très grands interprètes des très grands compositeurs ont une personnalité, et je pense que c'est les plus beaux concerts, il faut qu'il y ait un interprète qui apporte sa personnalité aussi.
Alors si vous voulez bien, nous allons faire une pause musicale et j'ai choisi, je pense que vous ne pouvez que connaître, In the Mood for Love, un très beau film, une très belle musique, de très bons acteurs, une musique dont vous m'avez dit que c'était plutôt...
Il faudrait que je la réécoute, mais il me semblait qu'elle était un peu espagnole.
Peut-être un peu, on va voir.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, In the Mood for Love, une très belle musique, très évocatrice du film lui-même. Vous l'avez vu ?
Oui, bien sûr, c'est un film magnifique. Oui, magnifique. Oui,
et formidablement joué également.
Oui, l'actrice, l'acteur aussi d'ailleurs, les
oui,
deux.
Oui, tous les deux. Oui. Revenons à Cheng Tong, un personnage. Alors, éditeur en Chine, robe grillée, et puis vous, héritier des plus jeunes, professeur aux Beaux-Arts, commissaire d'exposition, libraire, artiste traditionnel. Donc, il a introduit en Chine, robe grillée, il est propriétaire d'une Mercedes blanche. Mmh. En fait, vous le présentez dès le début. Est-ce que vous pourriez nous en lire un passage, s'il vous plaît ?
Oui, c'est le tout début du livre. C'est le moment où il vient me chercher à l'aéroport lors de ce voyage où je viens pour le tournage de ce film. Je suis arrivé à Guangzhou le 21 novembre 2014 dans la soirée et Chen Tong m'attendait à l'aéroport. Je l'aperçus à distance, vêtu d'une de ses éternelles chemisettes grises à manches courtes. Il se tenait immobile, les mains derrière le dos, le regard attentif. Il se dégageait de sa personnalité un sentiment d'assurance et de calme. Il esquissa un sourire, à peine un sourire, l'encoignure de ses lèvres se souleva, tandis que ses yeux brillaient de complicité contenue. Mais rien de plus. Son corps n'avait pas bougé, son visage était resté impassible, grave, placide. Je fis les derniers mètres pour le rejoindre et on se donna la collade, avec précaution, mimant la collade plutôt que la donnant vraiment. Il me tapa deux ou trois fois, doucement dans le dos, pour souligner nos retrouvailles. Il s'empara de ma valise et on passa les portes de l'aéroport. Et aussitôt je fus assailli par l'odeur de la Chine. Cette odeur d'humidité, de poussière, de légumes bouillis et de légère transpiration qui imprègne l'air chaud de la nuit. Nous ne disions rien sous les vastes auvents de verre incurvés de l'aéroport et nous attendions la voiture qui devait venir nous chercher.
Alors Chen Tong, un personnage, un intellectuel, je dirais un intellectuel éclairé.
Absolument, un vrai intellectuel, très cultivé, artiste dans tous les sens du terme, oui. pratiquant lui-même et pratiquant d'ailleurs la peinture traditionnelle chinoise à l'encre de Chine.
Qui demande un travail.
Oui, une vraie technique. Il est professeur aux Beaux-Arts, mais professeur, je dirais, il connaît vraiment, et c'est d'ailleurs un paradoxe, parce que c'est un peintre traditionnel chinois reconnu. Il vend ses œuvres, il gagne de l'argent. Et on peut souligner ce paradoxe qu'avec l'argent qu'il gagne, avec cette peinture chinoise traditionnelle, il va éditer des écrivains d'avant-garde européens. Ouais. Alors c'est vraiment très paradoxal et très remarquable.
Tout à fait. Je dirais que c'est un décideur aussi, un chef en fait, parce qu'il gère tout cela, il a ses interprètes, et oui.
Oui, il a une coterie, et il est en effet tout le temps. Alors c'est quelqu'un qui est en permanence au téléphone, et évidemment, comme je ne comprends pas ce qu'il dit au téléphone, puis tout le temps il règle des choses en permanence et en fait, lorsque j'arrive, je lui apporte beaucoup. Il a beaucoup de travail avec moi puisque je lui ai fait trouver un Boeing 747, c'est pas facile. Je lui ai fait trouver
des abeilles,
un mannequin qu'on va recouvrir de miel. Il doit me trouver. Enfin, donc à chaque fois, j'ai des exigences et lui-même, je dirais, avec le plus grand sérieux, se met à la tâche, appelle, trouve des solutions, active des réseaux, fait appel à tel autre prof qui connaît. Donc il a toujours des stratagèmes, des idées. Il va faire un dîner pour faire rencontrer quelqu'un.
Il a toujours des solutions. Mais en même temps, moi je le trouve assez laconique, évasif.
Oui, et mystérieux. Oui, il reste. Oui. Alors, en même temps, je décris vraiment. C'est une vraie amitié, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui reste. Il reste des zones d'ombre totales. Enfin, dire, moi,
est-ce que ce n'est pas un peu le caractère chinois quand même? Ils ne sont pas forcément extravertis, si.
C'est possible. Enfin, difficilement. C'est-à-dire que les Chinois contrairement aux Japonais, qui cachent beaucoup de choses naturellement, les Chinois peuvent dire des choses avec franchise, et même pour les Occidentaux, quelque chose qui peut apparaître comme de la brutalité.
D'ailleurs, à un moment donné, ça a été le cas. On en parlera peut-être.
On sent parfois des choses qui sont très déstabilisantes. Enfin, il n'empêche que dès le début, j'avais une sorte de confiance instinctive en fait, dans ces relations. Mais parfois, ça peut être compliqué ou inconfortable, disons tout simplement inconfortable, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes codes. Et donc, en effet, Chen Tong est un personnage que... D'abord, je ne le vois pas tant que ça, même si j'ai fait pratiquement une dizaine de voyages en Chine depuis le début des années 2000.
Oui, parce qu'il a tellement de cordes à son arc qu'il doit donner des cours, il doit peindre.
Voilà, alors je vis avec lui et je le vois énormément quand je suis là, mais il faut bien noter que je ne suis quand même pas là tout le temps. Je viens de temps en temps, 3 semaines. Et donc, il y a des tas de pans, enfin, je dirais, il y a des pans entiers de sa personnalité qui restent pour moi dans la pénombre. Et je ne sais pas, il y a des tas de choses que j'ignore. Mais ce n'est pas du tout quelque chose, je ne cherche pas à le percer à jour ou à déceler quelque chose. Moi, je m'accommode très bien, justement, de ce mystère.
Moi, je suis admirative, Jean-Philippe Toussaint, je suis admirative parce que, en fait, vous avez une confiance en cet homme et en cette équipe, en définitive, une grande confiance.
Oui, ben je suis, en effet, je veux dire ça, on peut dire ça également, il n'y a aucune méfiance, je ne cherche pas à découvrir des choses qui seraient cachées, je viens...
Est-ce qu'il y a une forme de fatalisme, finalement?
C'est au-delà de ça. Ça peut être un peu de ça, mais je crois que c'est plutôt une décision. La décision, elle est au départ. Elle vient quand je suis en Europe. Je décide d'aller tourner ce film en Chine, et pas n'importe où en Chine, dans le sud de la Chine, et pas n'importe où dans le sud, à Guangzhou, parce qu'il y a Chen Tong. Et donc, je me confie à lui, et parce que je lui fais confiance, et je sais qu'il peut... Alors, c'est presque d'une certaine façon, je suis très fataliste, mais quand même, c'est moi qui ai décidé.
Oui, et vous dites, c'est pas la peine de revenir sans cesse là-dessus.
Voilà, et puis lui-même, alors, il est absolument, je dirais... accueillant, parce que d'une certaine façon, c'est pas lui qui m'a proposé de produire mon film, c'est moi qui lui dis tu vas produire mon film. Donc il est quand même extrêmement accueillant. J'arrive et je lui dis on va faire ça. Et donc il doit me trouver un avion, il doit me trouver un cheval, etc. Donc il est quand même.
Vous êtes un peu tributaire.
Voilà, alors même si par la suite je reste en effet assez passif et assez accommodant, etc., au départ, l'idée c'est de travailler avec lui. Et j'ai l'impression, et je pense que ça s'avère, que c'est gagnant-gagnant. Lui-même, comme éditeur, c'est une dimension supplémentaire. Ça crée quelque chose de tout à fait inédit. Et je crois qu'il me l'a dit lui-même d'une certaine façon. Rob Grillet, il avait une relation très très forte avec Rob Grillet, mais Rob Grillet était une image de père pour lui. Rob Grillet avait 30 ans de plus que lui. Nous avons le même âge, enfin, il a 3-4 ans de moins que moi, mais nous avons le même âge. Donc il y a quelque chose de différent et qui est très intéressant pour lui aussi, je crois.
Alors quand vous dites je suis accommodant, je dirais même que vous avez une incroyable adaptabilité. Et je trouve que finalement, c'est ce que tout voyageur doit être, devrait être.
Oui, alors là, je suis plus qu'un voyageur, je suis
un résident.
Et puis un artiste qui vient faire un film. Mais en effet, je dirais qu'il y a aussi ça c'est un point très important, c'est cette rencontre avec la mentalité asiatique ou la mentalité chinoise. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte qu'un metteur en scène occidental, européen, irait en Chine avec une idée arrêté, et je dirais même préconçu. Et il voudrait il voudrait plier la réalité à son bon vouloir. Mmh. Et c'est une attitude que je n'ai pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, je ne viens pas en sachant ce que je veux. Je viens avec une disponibilité. Et cette façon de voir les choses, finalement, est très proche de la mentalité asiatique ou chinoise. Et on la retrouve...
Oui, d'ailleurs, vous en parlez à un moment donné, justement.
Hein, absolument.
Dans les projets, il faut... attraper le hasard. Hein,
absolument. Voilà. Et alors, il y a aussi une chose qui... Je cite François Julien, qui est un grand penseur, qui a écrit des choses très intéressantes, très fines sur la Chine. Et notamment, il explique à un moment que le général dans la guerre en Chine n'a pas de visée proprement dit. Et ce mot « visée » me plaît beaucoup. Il n'a pas de visée. Alors qu'un général occidental aurait une visée, un but, un dessein. Le chinois n'a pas de viser, il va simplement essayer de tirer le meilleur parti de la situation à laquelle il est confronté. Et ça, ça me semble une idée extrêmement riche.
Et sage.
Et c'est d'arriver en Chine avec l'idée de faire ce film et pas vouloir imposer ma volonté au monde, mais plutôt de tirer avantage de la situation qui m'est proposée. Donc, bien observer ce qui se passe et essayer de tirer avantage. Alors finalement, ça m'amène, dans ce livre, finalement, à avoir une réflexion beaucoup plus large sur la place du hasard dans la création artistique.
Mais vous n'avez jamais été agacé, inquiet, découragé ?
Là, je dirais que il y a un certain fatalisme. Je ne crois pas. J'étais à la fois extrêmement concentré. Il y avait une vraie volonté d'arriver à faire quelque chose. Et en même temps, je savais bien que ça ne passerait pas par un effort de volonté. Que ça passerait finalement par les choses se feraient et il fallait que
et
je m'adapte.
Différemment de ce que vous aviez prévu.
Absolument. Voilà. Mais que, et c'est ça qui est une des choses, une très belle leçon de ces expériences multiples, parce que j'en ai tiré presque une leçon plus large sur la création en général, c'est que toute création, même un livre, est quand même le fruit de beaucoup de hasard. Parce qu'on est confronté dans la vie, et c'est valable pour la création, mais c'est valable pour la vie. Il y a plein de hasards, il y a plein de bifurcations. Et en fait, une fois qu'on a accepté ces hasards...
C'est ce qu'on en fait, finalement.
Voilà, et on les accepte, tous ces hasards, on les fait rentrer dans la création. Ouais. Il n'empêche qu'à l'arrivée, il y aura quand même quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité. Et en fait, j'exprime ça en disant que la nécessité que l'œuvre porte en elle-même est plus forte que la somme des hasards qui la constitue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même quelque chose, et ça, c'est dans notre vie aussi. Certes, j'aurais pu ne pas rencontrer ma femme, parce que si on n'avait pas été à la même soirée, je l'aurais pas rencontrée. Mais je dis, certes, il y a plein de hasards à tout moment, mais pourtant, il y a quand même une nécessité. On n'est pas complètement le jouet du hasard. Et cette dialectique entre le hasard et la nécessité, finalement, je me semble très intéressante par rapport à la création artistique.
Tout à fait. Qu'elle soit littéraire, cinématographique, de toute façon, toutes les formes de création.
Absolument.
Alors, nous allons peut-être, Jean-Philippe Toussaint, nous allons peut-être quitter un instant Made in China pour écouter, alors, le groupe The Miss, c'est Peacock Dance. Vous ne connaissez pas, moi non plus.
Alors, allons-y.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Jean-Philippe Toussaint pour son livre Made in China, paru aux éditions de Minuit. Alors, Jean-Philippe Toussaint, on parlait tout à l'heure des difficultés de communication. La langue, évidemment, à un moment donné, il y a quelque chose de drôle. Erreur sur le prix de location d'un cheval. Hein, bon, bah oui, on comprend. Et ça, c'est quand on est à l'étranger, il peut y avoir des erreurs de ce genre. Us et coutumes, codes différents, parfois manque d'égards ou parfois trop d'égards.
Oui, alors il y a un exemple frappant, c'est le fait qu'au début, lors de mes premiers voyages en Chine, chaque fois qu'on arrivait dans un hôtel, comme Chantong est toujours accompagné de 3, 4 personnes, 5 personnes, une petite bande, on me réservait une chambre d'hôtel et on me donnait la clé et tout le monde montait avec moi dans la chambre d'hôtel. Et donc j'arrivais,
un peu fatigué,
ma valise, je restais un peu debout et très vite ils avaient commencé à s'asseoir dans les fauteuils, allumer la télévision, ils téléphonaient, il y en a un qui allait se laver les mains et vous faire pipi dans la salle de bain. Enfin bref, et c'est une chose et qui était vraiment absolument déconcertante. Et il y a quelques amis qui ont lu cette scène et qui m'ont dit, il m'est arrivé exactement la même chose. Alors je crois que c'est un usage vraiment fréquent, c'est les Chinois, c'est peut-être un sens de la communauté, de l'hospitalité, mais je crois aussi, en tout cas j'ai remarqué qu'ils avaient fini par comprendre que c'était quelque chose qui n'était pas dans nos usages, oui. Et j'ai en tout cas remarqué que les dernières fois ils venaient quand même vérifier que ma chambre était bien, donc ils jetaient un coup d'œil, mais ils ne s'attardaient pas et toute la bande de Chantong ne s'installait pas dans ma chambre. Mais ça, j'ai un souvenir comme ça qui était vraiment extrêmement saisissant de se sentir complètement dépossédé, en fait. Parce que pour nous, la chambre d'hôtel, c'est un lieu absolument intime. Privé et ouais. Intime. Et donc, si on a beau être vraiment amis avec tous ces gens, d'ailleurs, tous ces gens qui faisaient partie de la bande de Chantong, c'était quand même totalement une invasion de les voir arriver dans ma chambre.
Alors, ce que je note encore une fois, c'est votre bienveillance et votre tolérance. Et évidemment, vous êtes là en observateur, en même temps bienveillant et en même temps neutre. En fait, j'imagine qu'il y a une sorte de solitude dans le fond. Vous êtes entouré, mais et vous êtes isolé. Et ça vous convient.
Oui, c'est très confortable pour moi. J'aime ces moments où mais je crois que c'est une position d'écrivain. Je suis à la fois en sécurité et en fait, je dirais que le monde défile devant moi. Et on ne me demande rien. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est d'observer. Et donc, finalement, aussi en observant, j'ai toujours un peu cet œil d'écrivain en me disant que je pourrais restituer ce genre de scène. Voir qu'est-ce qui se passe, observer. Et aussi me voir moi-même. Et voir le ridicule, parfois, des situations dans lesquelles je me trouve. Et de me dire, tiens, là... Ou me sentir ridicule moi-même, d'ailleurs, parfois. Et me dire, mais... Même si je me sens ridicule, je me dis, c'est pas grave, parce que plus tard, je vais pouvoir observer ou raconter cela dans une scène et ça sera très drôle dans un livre. Et donc, j'ai toujours ce regard d'écrivain, finalement. Et donc, d'une certaine façon, oui, je suis un peu dans une solitude un peu close, enclose, mais qui me convient parfaitement.
Et à partir de ces personnages qui évoluent autour de vous, vous pouvez créer des personnages fictifs. C'est toujours le rapport au réel, hein, le fictif, le réel qui se rejoignent.
Il y a une scène dans le livre, justement, où on assiste finalement au moment où je prends conscience à la genèse du livre, où je me dis je vais écrire un livre qui sera à la fois un essai littéraire sur la création et un journal, je vais mélanger deux projets, et je dis, et donc les gens qui sont autour de moi vont devenir des personnages. Et donc là, il y a une sorte de vertige qui me prend, puisque j'ai en face de moi des personnages qui ont un double statut, à la fois de personnes réelles, donc il y a Chantong à côté de moi, ou Su qui est là, ils sont tous les deux, je peux les toucher, ils sont réels, et en même temps, je sais que je vais en faire des personnages littéraires, donc des personnages qui vont être faits de mots, de phrases, et donc qui vont pas être réels. Et ils sont les deux à la fois. Et ça, c'est très vertigineux, en fait. Et d'avoir eu cette pensée-là dans la réalité, en fait, et de me dire, ah ben, je suis en face de quelqu'un, et je sais, je vais faire de toi un personnage. Et pourtant, tu es réel.
Mais dans le fond, tout individu est un personnage qui peut être fictif.
Certes, et en fait, tous les écrivains, finalement, ont dû le formuler de façon inconsciente. Mais là, ce qui est assez vertigineux, c'est le formuler de façon consciente. Voilà. Et de me dire à un moment, tu es en face de moi et tu vas devenir... J'ai la baguette magique et du vivant, je vais faire un personnage de littéraire.
Et d'ailleurs, c'est bien vous qui dites, si on veut que la vérité chatoie, il faut bien la romancer un peu.
Absolument, ça c'est l'idée centrale que le personnage porte mon nom, vit ce que j'ai vécu, mais en même temps, je raconte ça comme un romancier. Et donc, c'est en fait, et ça, j'ai les outils du romancier, ça fait 30 ans que j'écris des livres, et c'est ça que je décide de faire, c'est-à-dire que je vais romancer. Même si c'est absolu, je me sers d'une patte réelle, et j'invente assez peu, mais je connais, je sais comment on fait dans un roman, et du coup, ils ont des statuts de personnages de roman. Et c'est ça, je pense, qui rendra, qui fera chatoyer les scènes, qui fera vivre le livre.
D'ailleurs, vous dites à un moment donné que, dans le fond, il y a deux sortes d'interactions dans vos romans, entre la réalité et la fiction, entre le passé et le présent.
Oui, hein? Alors j'en ajoute même une troisième, c'est très rare. Mais je fais dans ce livre-là. Alors, c'est un peu ce qu'a fait Woody Allen dans La Rose pourpre du Caire. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui,
le personnage descend. Il sort de l'écran et il va rejoindre la spectatrice.
Oui.
Alors, en fait, il franchit cette frontière qui, normalement, on ne franchit jamais. C'est-à-dire qu'il y a la fiction et la réalité. Il y a une frontière qui les sépare. On ne franchit jamais cette frontière. Et je le fais une première fois dans le livre où, dans la salle à manger où je me trouve avec Chen Tong, la salle à manger d'un hôtel, d'un restaurant chinois que je décris, on mange avec des baguettes, on entend un bruit de moteur de Harley Davidson. Et je me dis, mais c'est Harley Davidson, ils n'ont absolument rien à faire là, c'est pas normal.
Et on reconnaît le bruit d'une Harley Davidson.
Voilà. Et puis, on se rend compte quelques phrases plus loin qu'en réalité, le bruit de Harley Davidson, il n'est pas dans la fiction, il est dans la réalité. En fait, c'est moi, écrivain, qui l'entend parce que c'est sur la place du village corse où je suis en train d'écrire. Il y a donc en fait un bruit de moteur qui va rentrer dans
qui
la fiction.
Dans votre
et donc je franchis cette frontière. Ça pour moi c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça m'amène ensuite à des développements beaucoup plus larges sur le hasard, sur la place de la fiction.
Vous savez que vous allez donner beaucoup d'idées à des ateliers d'écriture. Hein?
Ah ben j'espère, j'espère.
Oui, à un moment donné aussi vous dites... on en a déjà parlé. Chaque livre achevé est une somme de hasards infinitésimaux. Alors, page 60, je ne sais pas, non, on n'a peut-être pas le temps. Vous dites, c'est peut-être ce qui nous échappe qui est le plus intéressant. Alors, ça, c'est...
Alors, c'est un prolongement d'un autre roman où Marie, le personnage principal du cycle de Marie, créatrice de mode, qui comme moi... veut tout contrôler dans la création, se demande si le plus intéressant n'est pas ce qui lui échappe. Et puis elle se dit, oui, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui m'échappe. Et donc, le paradoxe, ce serait de dire, ah ben je vais essayer de contrôler ce qui m'échappe. Mais ça, c'est pas possible.
On peut pas.
Et donc, ce qu'il faut faire, c'est ça que j'explique, c'est ce qu'on peut faire, c'est accueillir le hasard. Et c'est ça que je dis, c'est qu'en fait, tout ce qui est du domaine du fortuit, de l'accidentel, de l'imprévu, finalement, peut être accueilli. Et ça n'enlève rien finalement, à notre force de créateur. Et ça, c'est un peu une leçon encore, comme j'expliquais, de la façon de voir des Asiatiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses accidentelles, imprévues, on peut les accueillir dans l'œuvre d'art, et ça va apporter davantage de vie, et ça n'enlèvera rien à la nécessité, finalement, que le livre ou que le film porte, finalement.
C'est vrai que dans le film, par exemple, on n'aura pas le temps de parler du lieu, parce que le lieu, c'est un peu par hasard que vous le trouvez, ce lieu.
Hein? Le décor est magnifique. C'est un musée à Canton, à Guangzhou.
Tout de vert, non?
Tout de vert. C'était en fait qui a été construit par Rem Koolhaas. Enfin, Rem Koolhaas, le grand architecte Rem Koolhaas. Et c'est comme un cube de verre. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on voit la ville. Et donc, dans la scène, j'accueille la ville, j'accueille les phares des voitures, j'accueille les néons extérieurs, j'accueille la nuit, la vraie nuit cantonaise. Et elle est bienvenue dans mon film. Oui, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais je l'accueille. Et pour moi, c'est quelque chose qui a apporté beaucoup au film.
De même que vous accueillez l'actrice qui n'était pas prévue au départ.
Voilà.
Et tout d'un coup, vous dites, ben oui, ça, c'est elle, c'est pas l'autre.
Il y a cette réflexion sous-jacente permanente, de dire je vais accueillir des tas de choses, mais ça, c'est pas parce que j'accueille plein de choses que c'est pas moi qui décide. En fait, finalement, il y a quelque chose qui me dépasse et qui est... J'ai quand même réussi à le faire, ce film, même si je ne pouvais pas savoir avant comment j'allais le faire.
Et
je
même
sais
avec
très bien
beaucoup de difficultés. Hein,
avec beaucoup de difficultés, mais je sais à l'arrivée que finalement, c'est mon film et je le revendique complètement.
Oui, alors oui, parce que souvent on voit que le scénario fluctue au gré, pas le scénario forcément, mais au gré des opportunités. Oui. Exemple, il n'y a pas de costume de pompier, on va avoir un costume de vigile. Donc il faut créer un rôle pour un vigile.
Voilà, mais je pense que cette façon d'être souple et de s'adapter, je pense que c'est finalement une qualité et que le contraire serait les créateurs rigides qui ne voudraient absolument céder sur rien. Mais je pense que d'abord ils doivent être très malheureux. Et ensuite, ce n'est pas sûr que le résultat final soit meilleur.
Alors, pourquoi le cinéma ?
Oh, c'est de tout temps. En réalité, je vais remonter à quand j'étais en terminale, je ne savais pas trop quoi faire. Je pense que j'aurais eu envie d'être metteur en scène de cinéma. C'est ça que je voulais faire. Je n'ai pas pu le faire immédiatement. Après le bac, j'ai fait Sciences Po à Paris, j'ai fait un 2A d'histoire, mais c'était ma première tentation de faire des films. Et donc finalement, j'ai pu en faire que parce que mes livres ont eu du succès. Et donc, dans les années 90, j'ai fait plusieurs films en 35 mm, dans des conditions habituelles du cinéma commercial, avec des acteurs, etc. Et à partir des années 2000, je n'ai plus vraiment eu le temps de faire des films comme ça, puisque je me suis consacré à un projet littéraire très vaste, qui est le cycle de Marie, qui m'a occupé pendant plus de 10 ans. Mais j'ai continué à faire du cinéma d'une façon plus expérimentale, plus audacieuse, et grâce à Chentong, grâce à la Chine d'une certaine façon, parce que tous ces tournages que j'ai faits, qui me prenaient beaucoup moins de temps, ça m'occupait 3 mois, 4 mois pour ces films courts, mais ça, j'ai continué finalement à faire du cinéma. Et donc pouvoir concilier un travail littéraire très ambitieux qui me prenait beaucoup de temps avec une pratique du cinéma plus souple, plus nouvelle, plus expérimentale.
Alors moi je pensais que vous alliez aussi me dire que ça vous permettait de franchir les frontières du livre, sortir de ses limites, parce que vous parlez de musique à un moment donné.
Oui, alors ça c'est en effet, on a parlé de Woody Allen tout à l'heure, La Rose Pourpre du Caire. C'est dans La Rose Pourpre du Caire, l'acteur descend de l'écran. Là, dans ce livre-là, en effet, je fais une sorte d'expérience à la fin, c'est qu'on va sortir du livre à la toute fin. C'est-à-dire que le livre se termine, le film commence. Et le film commence, ça veut dire qu'en fait, dans le livre papier, j'indique un lien qui permet de visionner le film sur son ordinateur, mais dans le livre numérique, parce qu'il existe un livre numérique de Made in China, on peut acheter le livre numérique, on a réussi à une prouesse technique, c'est que la musique se déclenche toute seule, à la toute fin. Et donc, on est en train de lire les dernières lignes, la musique du générique commence, et alors le lecteur, finalement, devient spectateur. Et donc, le livre numérique de Made in China, finalement, réussit ce passage entre un livre et un film. D'une certaine façon, je réussis ce passage de la frontière pour la deuxième fois, de partir du livre et de sortir de cette boîte close qu'est le livre normalement.
D'accord. Alors, j'avais mis aussi les auditeurs en appétit en parlant de l'humour. Je vois quand même que j'ai noté trop de phrases, on ne pourra pas les lire. Et c'est vrai que c'est un régal qui ponctue vos ouvrages. Déjà dans la salle de bain, c'était plein d'humour. Par exemple, Chengtong, à propos de chaussures, Chengtong m'a raconté un jour qu'un de ses professeurs aux Beaux-Arts trouvait que l'évolution des arts plastiques, c'était comme l'évolution des vêtements, et que l'évolution de la littérature, c'est comme l'évolution des chaussures. Les vêtements changent très rapidement, de forme, de matière, de taille, de couleur, mais pour les chaussures, les changements possibles sont beaucoup plus limités. Mais toi, me dit Chengtong, comme Robe Grillé, tu as trouvé une manière différente de faire des chaussures. Moi, j'ai trouvé ça. Bon, vous dites à un moment donné, ah oui, là, c'est ta rencontre. Il me semble que c'est la rencontre chez Lindon. Oui. Jérôme Lindon et son épouse, je pense. Et il y a Chengtong qui est dans le bureau. Et à un moment donné, bon, il parle beaucoup. Jérôme puis Irène Lindon accueillaient avec circonspection la mine sombre et l'œil préoccupé, car non content de parler chinois, Chengtong est plutôt loquace. Oui, en plus, il parle chinois. Mmh. Bon, etc. Écoutez, oui, j'en ai noté encore et encore. Personne n'ayant pu lui expliquer, pour l'heure, je suis Oui, qui venait d'arriver au bureau, attendait au bas des marches et regardait autour d'elle. C'est l'actrice, un peu intimidée, ne sachant pas exactement ce qu'on attendait d'elle, personne n'ayant pu le lui expliquer, puisque tout le monde ignorait comment on allait s'y prendre pour réaliser cette robe de miel. Entre parenthèses, moi y compris, pourrais-je ajouter, si je voulais faire de l'esprit à mes dépens. Etc. En tout cas, écoutez, c'est un plaisir de vous lire, encore et toujours. Là, c'était pas un format de roman, c'était autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors, on n'a rien mis.
On n'a rien mis.
Oui, mais justement, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est à la fois roman, récit, journal et on pourrait encore ajouter quelque chose, essai.
Un essai. Voilà. En tout cas, alors je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Made in China de Jean-Philippe Toussaint, paru aux éditions de Minuit. Merci.
Merci à vous.